vous êtes bien sur une émission de Radio Saint-Ferréol.
Ici et d'ailleurs, une émission sur les migrations.
Migration d'ailleurs vers ici, d'ici vers ailleurs.
D'ailleurs vers ailleurs.
D'ailleurs vers ailleurs.
Un invité.
Son témoignage.
Son parcours.
Son expérience.
Des chroniques.
Géopolitique.
Juridique.
Linguistique.
Et bien sûr,
l'actu. Bonjour, aujourd'hui nous allons voyager entre la France et l'Irlande. Notre invitée Fiona, bonjour Fiona.
Bonjour Sarah.
Vivant à Cray et étant originaire de Belfast. Dans le studio avec Fiona, JD et Sylviane à la technique, Claire et moi-même, et pour la préparation de cette émission, Richard était aussi avec nous. Comme à l'accoutumée, nous avons demandé à Fiona de choisir un son en gaélique. Donc on va écouter une chanson de Yarla O. Leonard. Qui va arriver bientôt.
Sour, sour, bangin' the ngowna. Hogum or fain on sour a lin. Sour a pween and note in glegal. The hogum or fain on sour a lin. Hogum or ling a o'kil craig will. Hogamer fain on sour a ling. Sour a bwee all in the grain. Hogamer fain on sour a ling. Babog na belt and a maid and a towry. So a skach look as she skach clown. Kalini mashach a barn gal a glegal. Hogamer fain on sour a ling. As call as traum as queerhun. Hogamer fain on sour a ling. On fwein sio gleg al bail on aho. Hogamer fain on sour a ling. Sour a bang in the mauna. Hogamer fain on sour a ling. Sour a bwein a nod ni'n glegal. Hogamer fain on sour a ling. Babog na belt and a maid and a tawri. So a skach look as she skach clown. Kallin í marsjöku bongjallu gleikall Hókum var fennun sáru ling
Fiona, tu viens de Belfast, en Irlande du Nord, où tu as passé ton enfance et ton adolescence. Alors là, je dois dire qu'avec cette musique, on a déjà pas mal voyagé. C'est une musique très touchante. Et j'aimerais bien commencer cette émission, si c'est OK pour toi, de nous faire voyager encore un peu en nous décrivant des lieux qui t'ont marqué quand tu étais enfant, des villes, des paysages, pour qu'on puisse partir par l'imaginaire un petit peu... en Irlande.
J'ai grandi à Belfast. J'ai grandi en ville, même dans un quartier, on peut dire, difficile pendant les problèmes politiques en Irlande du Nord. Mais j'ai eu beaucoup de chance, je crois, parce que mon père nous amenait à la campagne. Et je pense cette affinité avec la nature. Et quand je réfléchis sur ce qu'on faisait, je crois pour mon père, la campagne, c'était vraiment vivant pour lui. La nature était réelle. Voilà, les collines, les arbres. Souvent, on faisait des tours autour d'un arbre particulier. Et on chantait. Tout le monde voulait venir avec nous. On avait, notre famille n'avait pas beaucoup de voitures dans le quartier. Et c'était, mon papa avait une voiture, alors... J'ai remarqué que tous les enfants voulaient venir avec nous
pour sortir de la ville.
Sortir d'une situation assez difficile.
Et ton père était citadin ou il était originaire de la campagne?
Il est né vraiment au centre de Belfast. Alors il a connu la vie d'un citadin. Citadin. Mais je pense, un peu comme moi, plus tard, il faisait partie d'un club. C'était pas les scouts, mais un peu comme ça. Et grâce à ce groupe, il sortait de la ville, pas loin, peut-être à 10 kilomètres.
Mais c'était en dehors de la ville.
Oui, mais Belfast est entouré par des collines. On a la mer à côté. Et on a une rivière qui passe par Belfast. Et en fait, lui, c'est un peu comme la Drôme, en fait. Souvent, je vois les parallèles, en fait.
Entre la Drôme et Belfast.
Oui, et Belfast, parce que la rivière Lagan est très importante à Belfast et c'est là où mon père a appris à nager, dans cette rivière-là. Et voilà.
Alors, à l'intérieur même de Belfast, on peut, oui, un peu, on peut un se peu, baigner,
oui,
un peu à l'extérieur.
Oui, à l'extérieur, voilà.
Et tu parlais de ta famille, vous étiez combien d'enfants?
J'ai grandi dans une famille avec 4 enfants. Là, j'avais un frère plus âgé, 10 ans de plus, et une sœur 8 ans de plus. D'accord. Et après moi, et j'avais un petit frère aussi. Voilà.
Et donc, quand vous partiez à la campagne, c'était quoi? C'était tous les week-ends? C'était de temps en temps?
Je pense que c'était quelque chose qu'on partageait vraiment juste avec mon père.
Juste avec ton père.
Ma mère, elle s'intéresse, jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'intéresse pas du tout à la campagne. Alors, c'était quelque chose qu'on faisait juste, même pas les frères et sœurs plus grandes, on peut dire. C'était les petits, on partait. Et c'était quand... Il travaillait beaucoup, mon père. Alors, c'était quand, dans les moments...
Qu'est-ce qu'il faisait comme travail, ton père?
Oh là, et même en anglais, j'avais toujours du mal à expliquer. Mais bon... C'était un travail un peu manuel, mais spécialisé, on peut dire. Je sais que dans les derniers 10 ans de sa vie, il travaillait dans les navires, les réparations. Et...
Donc, dans les chantiers navals de Belfast.
Voilà, ça, c'était plus tard. Et je sais que quand j'avais 7 ans, il est parti au Soudan. Soudan. Oui, trois
mois. Dans la marine.
Ça, c'était dans les chantiers de pétrole, je crois.
D'accord. Et vous parliez beaucoup dans votre famille, avec les parents, le père, la mère?
C'était une famille très unie, on peut dire. Mes parents s'aimaient beaucoup et je crois qu'il y avait une belle ambiance à la maison. Ce que j'apprécie avec le temps, que je voyais mes parents, ils adoraient parler ensemble et ils rigolaient, oui. Ils partageaient beaucoup de choses. Et si je me souviens, j'ai un très beau souvenir de mon enfance, c'est quand, c'est justement quand mon père est rentré de Soudan. Et on était très, très contents de le revoir. Et je me souviens quand il est venu à la maison, et c'était le jour après, je crois, avec mon petit frère, on était là. Et mes parents, ils ont mis à part, ils ont déplacé le canapé et les chaises. Ils ont mis de la musique. Ils ont commencé à danser dans le salon ensemble.
C'est beau.
Oui, voilà.
Et on le voit sur ton visage, dans ton souvenir, que c'était beau.
Oui, pour les enfants, je crois que c'est juste avec le temps qu'on se rend compte qu'est-ce que ça veut dire. Et je pense qu'il y avait cette vraie joie entre mes parents d'être ensemble et de danser. Mmh. Et voilà. Voilà.
Et tu disais tout à l'heure que tu habitais dans un quartier difficile de Belfast. Tu peux le situer dans la géographie de Belfast, quartier?
Oui, bien sûr. C'est le quartier, ça s'appelle West Belfast, à l'ouest de Belfast.
Quartier catholique.
Oui, c'est un quartier entièrement catholique, qui n'a pas été toujours le cas. C'était juste après 69, 70, les quartiers ont commencé à être complètement séparés. Je sais, ma mère, elle voulait toujours habiter dans un quartier
mixte,
on peut dire. Mais 60, je crois, 70 ou 71, ils ont été obligés de fuir leur maison.
De là où ils habitaient avant.
Mm-hmm.
Et qui n'était pas dans l'ouest de Belfast.
Non, ça me semble que c'était au nord de Belfast, dans un quartier mixte. Mais à ce moment-là, quand les problèmes ont vraiment commencé, elle m'a dit, elle a un souvenir de la rue, les feux dans...
Les explosions.
Pas les explosions.
Des incendies.
Des incendies, en fait. Les protestants allaient dans les quartiers des catholiques et mettaient le feu et le contraire. Alors, mes parents étaient obligés à ce moment-là, avec deux enfants, de fuir. Et d'ailleurs, je crois que c'était à peu près, j'ai lu un chiffre, 60 000 personnes ont été déplacées à ce moment-là. Alors, quand ils sont arrivés dans ce quartier-là où j'ai grandi jusqu'à 9 ans, ils ont dû squatter. C'était vraiment ça. Il fallait partir.
Ils n'ont pas trouvé de maison, en fait. Ils ont squatté.
Oui, mais tout le monde squattait.
Tout le monde squattait.
Oui.
D'accord.
Alors, quand je grandissais, ils me disaient, ah oui, il y avait un monsieur protestant qui habitait dans cette maison. Mais après lui, il était obligé de partir.
De partir du côté protestant.
Voilà.
Tes parents s'installaient là. Je propose qu'on écoute une petite chronique historique pour que les auditeurs puissent te suivre, en fait, et suivre dans ton parcours les allusions que tu peux faire.
Oui,
donc,
bien sûr.
On va peut-être passer là une petite chronique qui explique quelques notions, quelques périodes de l'histoire de l'Irlande. Pour la chronique historique d'aujourd'hui, nous n'allons pas nous étendre sur l'histoire de l'Irlande depuis la préhistoire, mais rappeler des événements qui ont façonné l'Irlande d'aujourd'hui. Vers 500 avant Jésus-Christ, les Celtes, originaires de l'Europe de l'Est, arrivent en Irlande. Dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, ils sont fermement installés sur toute l'île et ont balayé au passage toutes les civilisations antérieures. Durant le premier millénaire, les invasions vikings depuis la Scandinavie n'ont pas laissé beaucoup de traces, hormis une influence dans la langue maritime. Au XIIe siècle, les Anglo-Normands envahissent l'Irlande, mais ils s'intègrent vite et deviennent plus gaéliques que les Irlandais eux-mêmes. La société est alors organisée en petits villages, en petits royaumes avec peu d'espace urbain. Au XVIIe siècle, la victoire des Anglais contre les grands chefs irlandais entraîne leur fuite et la colonisation de l'Irlande, avec l'intensification de la politique des plantations qui voit arriver au nord de l'île, en Ulster, de petits paysans écossais de confession protestante qui prennent les terres aux catholiques irlandais. Le ressentiment grandissant du peuple irlandais aboutit à la révolte de 1641. Des milliers de colons écossais ou anglais sont tués. Suite à cette rébellion, le pays est sous le contrôle de la Confédération irlandaise catholique. De nombreux conflits se perpétuent jusqu'en 1649, date à laquelle l'Angleterre envoie Cromwell, qui débarque en Irlande afin de la reconquérir. Il réprime les révoltes dans le sang, ce sont les massacres de Drogheda et de Wexford. Il publie un nouveau règlement territorial qui octroie les bonnes terres aux Anglais et confine les anciens propriétaires dans les landes les plus pauvres. Mais ce n'est pas tout. L'élite au pouvoir protestante introduit une série de lois draconiennes pour priver la majorité des Irlandais catholiques de leurs droits. Sous cette législation pénale, ou penal laws, les catholiques ne peuvent plus posséder de terres. Ils sont obligés de les louer à des propriétaires anglais à un prix exorbitant. L'exercice de toute fonction publique est interdit aux catholiques et un fils n'a pas le droit d'hériter des terres de son père. Les Irlandais catholiques n'ont pas le droit d'ouvrir d'école. Ces lois pénales faisait partie d'une politique intentionnelle qui visait à opprimer, appauvrir et dégrader la population catholique. Et ça a bien marché. À la fin du XVIIIe siècle, les catholiques en Irlande étaient 90% de la population, mais ils ne contrôlaient que 10% de la terre. Comprendre les conséquences de ces lois les Penal Laws, est la clé pour comprendre l'histoire de l'Irlande et le conflit de l'Irlande du Nord. L'acte d'union proclame l'avènement à compter du 1er janvier 1801 du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. Un événement dramatique, la grande famine de 1845 et 1857 va profondément changer l'Irlande. Les terres les plus riches étant dans les mains des protestants, les catholiques irlandais se sont spécialisés dans la culture de la pomme de terre, qui est devenue leur seule source d'alimentation. C'est pourquoi, lorsque le mildiou, un parasite de la pomme de terre, a touché l'île, détruisant les récoltes, ce fut une catastrophe. Sur une population de 8 millions d'habitants, il y a eu 1 million de morts et 1 million de personnes à émigrer. Alors que les ouvriers, paysans, mouraient de faim, ils devaient encore payer leurs terres aux propriétaires anglais qui étaient absents. L'Irlande, faisant partie intégrante du Royaume-Uni depuis l'acte d'union, en 1800, l'organisation de l'aide publique incombe donc au gouvernement britannique de Londres. Or, les années 1840 marquent en Grande-Bretagne le triomphe de l'idéologie libérale, celle du laisser-faire en économie, ce qui fait que l'aide étatique est réduite au strict minimum. Seuls les souples populaires permettent un temps de contrer chez certains pauvres les effets les plus sévères de la dénutrition. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'aboutissent les mouvements d'indépendance qui ont émaillé l'histoire d'Irlande depuis le XVIIe siècle. Au début du XXe siècle, l'Irlande du Nord, qui avait connu une révolution industrielle, est plus organisée que le Sud. Le port de Belfast en est un exemple, avec ses chantiers navals où a été construit le Titanic et d'où partent les exportations. En 1919 démarre la guerre d'indépendance irlandaise. Le traité anglo-irlandais, ou traité de Londres, a été signé à Londres le 6 décembre 1921. Il a donné naissance à l'État libre d'Irlande et a organisé la partition du pays. L'Angleterre, alliée des protestants, gardant le Nord plus industrialisé et dont les terres étaient les plus riches. C'est une société à deux niveaux qui se développe en Irlande du Nord. Il y a beaucoup de discrimination contre les catholiques et les quartiers populaires de Belfast connaissent un chômage endémique atteignant 50% de la population active. Le conflit nord-irlandais constitue l'épisode le plus sanglant d'une histoire qui a déchiré l'Irlande depuis le début du XXe siècle. L'élément déclencheur a été la mobilisation pour les droits civiques en faveur de la minorité catholique du Nord en 1968. Parmi les épisodes sanglants du conflit, on peut citer le Bloody Sunday ou Dimanche sanglant. Une tuerie survenue le dimanche 30 janvier 1972 dans le quartier de Boxside à Derry en Irlande du Nord, dans laquelle 28 personnes, les manifestants pacifistes des droits civiques et des passants, ont été prises pour cible par des soldats de l'armée britannique. 14 hommes, dont 7 adolescents, sont morts. Dans ce conflit, les républicains de l'armée républicaine irlandaise, ou l'IRA, et sa branche politique, le Sinn Féin, ainsi que les nationalistes, notamment du SDPL, Social and Democratic Labour Party, partisans de l'autonomie et de la réunification des deux Irlandes, sont opposés aux unionistes, soutenus par le Royaume-Uni. L'accord du Vendredi Saint, ou accord de Belfast, signé entre ces trois parties, y met officiellement fin le 10 avril 1998. Il prévoit notamment, outre le désarmement des groupes paramilitaires, une relative autonomie de l'Irlande du Nord, par la création d'une assemblée locale et d'un conseil des ministres. L'abolition de la revendication territoriale de la République d'Irlande sur l'Irlande du Nord. Le droit de détenir les deux citoyennetés, irlandaise et britannique. Un partage des pouvoirs à l'Assemblée. Le 9 janvier 2020, l'Angleterre sort de l'Union européenne. Se pose alors en Irlande la question des frontières entre la République d'Irlande au sud et l'Irlande du Nord. Dans le Brexit, le protocole pour l'Irlande avait pour objectif d'éviter le retour d'une frontière physique et donc de permettre aux accords de Belfast du Vendredi Saint, dont nous avons déjà parlé, de perdurer. Depuis 2021, est instaurée une frontière douanière en mer d'Irlande entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Le 5 mai 2022, se sont déroulées les élections législatives d'Irlande du Nord. Après deux jours de dépouillement, le samedi 7 mai, le Sinn Féin, un parti nationaliste favorable à la réunification, remporte la majorité. C'est un tournant politique important, puisque depuis 1921, ce sont les unionistes qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, en février 2023, le gouvernement britannique remet en question le protocole d'Irlande et les frontières, alors que le blocage politique persiste en Irlande du Nord. Le chef du parti unioniste DUP, Geoffrey Donaldson, refusant de participer à l'Assemblée locale en tant que Premier ministre, avait comme chef de l'exécutif Michelle O'Neill, vice-présidente du Sinn Féin, vainqueur des élections. Alors que nous enregistrons cette émission, une rencontre est prévue entre Londres et Bruxelles pour tenter de trouver une issue aussi bien politique qu'économique à cette crise. Voilà, c'était une brève chronique historique. Je voudrais préciser qu'on peut trouver sur notre site, c'est sur le site de l'émission Ici et d'ailleurs, on pourra trouver effectivement le résultat de cette rencontre. Fiona, est-ce que tu peux réagir? Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à cette chronique historique? Je peux le dire aux auditeurs, tu nous as aidés à préparer également. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Et je voulais te demander aussi en même temps... On parlait de Belfast comme une ville marchande et une cité industrielle. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours une ville qui est fortement industrialisée, qui est une ville riche, qui est une ville... Voilà, si tu peux nous parler de Belfast un petit peu aujourd'hui.
Oui, c'est une ville importante. C'est la capitale de l'Irlande du Nord et c'est vraiment le centre de l'Irlande du Nord. On a cet héritage riche de la construction navale, à Harland & Wolff. Et bien sûr, on n'a pas les navires d'autrefois maintenant. Alors, cette entreprise a été obligée de diversifier. Et... Et alors, ça reste vraiment une entreprise importante. Maintenant, ils travaillent avec les avions.
D'accord, mais il y a encore du travail.
Enfin, oui.
Ça existe encore.
Oui, oui, bien sûr. Et avec Brexit, je viens de lire aujourd'hui un peu sur les résultats, parce qu'avec cette frontière qu'ils voulaient mettre entre l'Irlande du Nord et la République, ça aurait été une catastrophe pour l'Irlande du Nord.
Une frontière terrestre qu'ils voulaient remettre.
Oui, voilà. Mais je crois qu'ils arrivent à un accord maintenant. Ils arrivent doucement.
Oui. C'est ça, entre l'Union européenne et,
voilà.
et Londres.
Oui, et je pense...
Un accord qui doit être aussi ratifié, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, qui doit être aussi ratifié par... Une fois qu'ils seront d'accord, l'Irlande a son mot à dire.
Oui. Okay. Et ici, je crois, ils ont, si j'ai bien compris aujourd'hui, ils se sont arrivés à un accord. Et je pense que ça va être vraiment super pour l'Irlande du Nord, parce que comme la République d'Irlande reste en Europe.
Oui.
Il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui veulent maintenant passer par Dublin pour la République.
Au lieu de passer par l'Angleterre.
Voilà. Et après, je pense, nous, en Irlande du Nord, on peut profiter de cette situation. Voilà.
Bonne nouvelle, alors.
Oui, c'est une bonne nouvelle.
Et quels sont tes souvenirs, toi, de Belfast, quand on parlait des affrontements? Est-ce que tu as connu la présence de l'armée? Est-ce que tu as des souvenirs?
Oui, je pense un de mes... Alors, je vous ai expliqué, je t'ai expliqué qu'à la maison, tout allait très bien. Alors, je crois que c'est important quand même, parce que j'avais cette sécurité à la maison. Mais dehors de la maison, c'était pas du tout le cas. Parce que je me souviens quand j'avais peut-être 7 ans, il y avait les soldats, l'armée britannique qui circulait juste comme ça dans la rue avec leur grand fossile en uniforme.
D'accord.
Voilà.
Il y avait des chats aussi. Des chars, les grandes, les chars, c'est les voitures militaires.
Ah oui, 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 oui. Ça, avait... c'était. En fait, ça, c'est. Je devrais pas rigoler, mais en fait, quand il est entré dans le quartier, tous les enfants, un peu sauvages, on peut dire, c'était. Nous, on pouvait pas faire ça parce que ma mère était très stricte, mais tous les enfants de quartier disaient, allez, on va tirer des pierres.
Des pierres.
Aux Britanniques. Alors tout le monde, tous les enfants.
Aller dans la rue pour jeter des pierres.
Oui. Et ma mère disait, mais venez, 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 rentrez. Voilà. Et je me demandais pourquoi moi, je ne pouvais pas. Voilà, ça, c'est
tu
un autre...
Voulu, tu aurais voulu y aller.
Non, parce que j'avais compris quand même, c'était la délinquance. Mais bon, je me demandais déjà pourquoi ma famille ou nous, on ne pouvait pas le faire.
Alors que les autres enfants
y voilà, avaient... c'était accepté. Et cette histoire, je me souviens très bien avec un soldat. Et en fait, nous, on jouait beaucoup dans la rue avec les cordes à sauter.
Oui.
Et en fait, lampadaire, je ne sais pas si c'est le mot.
C'est, oui. C'est le mot.
Nous,
c'est
on ça. Mettait la corde sur les lampadaires et on tournait. Ça, c'était notre jeu. Voilà.
Okay. Bon. Autour des lampadaires.
Oui, oui, oui. Ça, c'était très commun pendant les années 80. Et je me souviens, je suis allée parce que mon papa m'avait mis la corde bien en haut. Bien. Et voilà. Et je suis allée et au coin de la rue, il y avait un soldat britannique. Là, et je me souviens parce que c'était quelqu'un de couleur. Déjà, pour moi, à Belfast, ça ne se voyait pas trop. Alors, il m'intéressait, on peut dire. C'était quelqu'un, je me suis dit, c'est qui niveau d'apparence. Mais tout de suite, j'avais compris que je n'avais pas le droit d'être gentille avec lui.
Parce que c'était un soldat.
Voilà. Et je me souviens, cette...
Attirant, c'est en même temps, voilà. Tu ne voulais pas être gentil avec lui.
Oui, lui, il était gentil quand même. Il m'avait dit bonjour avec son accent anglais. Et, oh, pour moi, c'était waouh, c'était quelque chose. Et moi, j'ai dû faire semblant.
D'être rebelle.
Voilà, et j'ai dit, j'ai rien dit. Et même à ce moment-là, je n'étais pas à l'aise avec ça.
Tu n'étais pas à l'aise de ce sentiment contradictoire? Ou tu n'étais pas à l'aise de... Tu aurais voulu être gentille avec lui?
Oui. Pour moi, j'ai toujours envie de... J'ai jamais vraiment... Je ne sais pas, je ne peux pas... Si je peux être gentille...
Avec tout le monde.
Oui. Et ça, c'est très, très profond en moi. Et même à cet âge-là.
Même déjà quand tu étais petite.
Oui. Et je n'ai pas grandi comme ça. Tout le monde se disait bonjour, tout le monde, voilà. Alors, peut-être que c'était la première fois dans ma vie, en fait, où je me sentais que je ne pouvais pas être gentille.
Gentil.
Voilà.
Et quand tu étais à Belfast, enfant, tu as rencontré des protestants?
Non. Non, c'est incroyable, mais la vie était... les écoles étaient catholiques. On allait à la messe tous les dimanches. Même pendant le carême, avec ma mère, on allait à la messe tous les jours.
Tous les jours.
Et en fait, c'était dangereux. On ne pouvait pas vraiment aller dans un autre quartier. Voilà. Et quand j'ai déménagé, on a déménagé quand j'avais 9 ans. Et à ce moment-là, c'était dans un autre quartier, on peut dire, moins difficile. C'était mieux, le quartier. Et pour aller chercher des courses pour ma mère, j'ai dû traverser peut-être 100 mètres d'un quartier protestant. Et je me souviens que j'entrais dans le petit, c'était un supérette, c'est un petit supermarché.
Dans le quartier protestant.
Oui, oui, mais c'était limite, en fait, parce que nous, on connaît les limites. Et c'était limite entre les deux quartiers. Et une fille est venue, elle m'a dit, je sais que toi, tu es catholique, tu es venue de ce quartier-là. Quand tu sors de là, je vais te
taper.
Je vais te taper. Et là, j'étais dans le supermarché, j'ai circulé.
Pour pas sortir.
Non, voilà.
T'avais peur.
J'avais peur, bien sûr. Elle était plus grande que moi à ce moment-là. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors grâce à Dieu, quelqu'un est venu, c'était un copain de l'école avec sa mère. J'ai dit, j'expliquais la situation.
Et tu es sortie avec
lui. Oui, et tout allait bien. Mais voilà, c'était à ce moment-là le seul protestant.
Le seul contact que tu as eu avec quelqu'un de protestant.
C'était juste quand je suis allée à la fac plus tard à Belfast. À 18 ans que j'ai eu de contact avec des protestants. Mais il faut dire, parce que pour donner une image un peu plus claire de Belfast, maintenant je connais bien la ville, je connais... Ça, c'était particulier parce qu'on parle des quartiers ouvriers. On parle de working class communities.
Les communautés de travailleurs.
Oui.
Quand on parle de West Belfast.
Oui. Et par exemple, à l'Est, Belfast, East Belfast, c'est pareil, mais c'est protestant. Et dans le Nord et le Sud, par exemple, le Sud, c'est là où on trouve les quartiers plus aisés.
Mm-hmm.
Et ça a toujours été mixte. Alors,
Les quartiers aisés étaient mixtes et les quartiers ouvriers étaient séparés.
Mmh. Mmh. Et j'ai même lu, pendant il y avait une grève, pendant les années 20 ou les années 30, et j'ai lu quand je faisais mes études en géographie, qu'en fait, pour ce de pouvoir, en fait, c'était bien en fait, d'avoir... Quand les protestants, les ouvriers protestants et les ouvriers catholiques étaient divisés.
Ils gardaient le pouvoir.
Oui, ils avaient moins de pouvoir.
Les ouvriers avaient moins de pouvoir.
Exact,
oui.
Voilà.
Oui, s'ils avaient été ensemble.
Oui, et ce que je vois dans les quartiers, par exemple, où ma mère habite maintenant, c'est dans un beau quartier de South Belfast. Nos voisins... Je crois, sans pâte protestant, on ne va jamais parler de ça. Voilà.
Je propose qu'on fasse une petite pause musicale. Mm-hmm. Alors, c'est une musique qui n'est pas très gaie, puisqu'elle parle du Bloody Sunday dont on a parlé tout à l'heure dans la chronique historique. C'est U2 mm-hmm. qui joue ce morceau.
This song is not a rebel song.
En live.
This song is Sunday, Bloody Sunday. Close my eyes and make it go away. How
Vous êtes dans l'émission Ici et d'ailleurs sur Radio Saint-Féréol avec Fiona, notre invitée qui vient de Belfast et qui vit à Cray. Avant de partir de Belfast pour parler de ta vie ici et de ton départ d'Irlande, on pourrait faire un petit point sur la langue. Quel est ton rapport à la langue, au gaélique, à l'anglais irlandais? Je vous laisse la parole à Claire et Fiona.
Pour moi, le gaélique, je me souviens très bien quand j'avais 7 ans, à peu près la même époque que j'ai rencontré le soldat britannique dans la rue. Et je me souviens très bien, j'ai demandé à ma mère où est-ce que j'habite, comment ça s'appelle la rue, où j'habite. Elle m'a dit Chrislock Park. Et j'ai dit OK, ça s'écrit comment, maman? Elle a dit mais vas-y, tu cherches, tu regardes. Et je me souviens, j'ai écrit le nom. Ça correspondait pas du tout avec l'anglais que je faisais à l'école. Et en fait, dans le quartier catholique où j'ai grandi, tous les noms des rues étaient des endroits à Donegal, dans le Gaeltacht. Le Gaeltacht, c'est les régions de l'Irlande où les gens parlent le gaélique en tant que langue maternelle.
Il reste des gens qui parlent le gaélique en langue maternelle.
D'après les dernières estimations, c'est à peu près 49% de personnes qui parlent le gaélique encore dans ces régions-là. Donc ça représente une proportion bien plus élevée que dans le reste de la population.
Oui. Ils ne sont pas très nombreux par rapport à la population entière. J'ai lu des chiffres entre 40 000 et 80 000 personnes. Voilà. Mais dans ces petites poches, si on peut dire, si tu vas au supermarché, il n'y a pas des supermarchés, mais
si tu
vas aux magasins, au pub, il y a quand même des gens qui parlent gaélique. Et je pense que ça m'a intriguée un peu. Mais comme ma famille, peut-être côté père, il ne voulait pas trop parler de la politique. Mais je sentais vraiment chez ma mère, elle était anti-républicaine, on peut dire. Elle n'aimait pas du tout ce que se passait avec la violence. Elle n'aimait pas la violence dans la rue des paramilitaires. Et à Belfast, à ce moment-là, il y avait une forte association avec le gaélique et le mouvement républicain.
Qui travaillaient ensemble, quoi. Enfin, l'association voilà. qui promouvait le gaélique était proche de l'IRA.
Voilà. Alors souvent, il y avait des prisonniers de l'IRA quand il était aux prisons. Il voulait reprendre la langue gaélique. Et souvent, aux prisons, ils parlaient entre eux en gaélique. Alors, cette langue en Irlande du Nord est devenue politisée.
Une langue militante.
Et, oui. Mm-hmm. Et pour ma mère, ça, c'était quelque chose qu'elle n'aimait pas. Et quand je suis arrivée, parce qu'en Irlande du Nord, on n'est pas obligé de faire gaélique à l'école primaire. On a une option un peu au collège, au niveau de collège, de faire espagnol, gaélique ou allemand, je crois peut-être. Non, mais même juste entre espagnol et gaélique. Et à ce moment-là, il n'y avait pas l'option pour moi de faire gaélique.
Et ta mère ne voulait pas?
Non, voilà.
Et tu as fait quelle langue ?
Espagnol.
Espagnol. Et il n'y avait pas le français, parce que tu
parles... Oh, bien sûr, le français était la première.
La première langue,
oui,
d'accord.
Oui, on était obligés de faire le français. Et comme deuxième langue...
Là, tous les enfants ont appris le français en premier.
Oui, là.
Oui, le français est parlé à peu près 20% de la population irlandaise aujourd'hui. C'est beaucoup représenté. Oui.
À ce moment-là, c'était vraiment, oui, tout. Je ne sais pas si ça a changé, peut-être maintenant avec les langues asiatiques et les autres langues, mais je sais à ce moment-là, on n'avait pas l'option, il fallait faire le français. Voilà. Yes. Et c'était juste pour le gaélique après. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la musique irlandaise traditionnelle à partir de l'âge de 15 ans. Et c'est dans ces cercles-là où j'ai commencé à voir, à écouter le gaélique. Et j'ai commencé peut-être à être un peu politisée moi-même. À ce moment-là, j'ai commencé à comprendre...
L'importance de cette langue.
Oui, et j'avais un copain à ce moment-là qui parlait couramment, ses parents parlaient, c'était important pour leur famille. Et je me suis dit... J'aimerais bien apprendre quand même. Alors,
tu avais quel âge à l'époque ?
15 ans. Alors, je suis allée, nous, on a des cours de soir. Et je suis allée à une sorte de club social.
Pour
le prof était un ancien prisonnier de l'IRA. Il n'y avait rien en fait, il n'y avait même pas un tableau. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à apprendre le gaélique et ça me fait beaucoup de bien. Parce qu'au moins, je sais lire, on peut dire. Je sais prononcer ces mots. Parce
qu'avant, c'est important pour tes racines.
Oui.
Enfin, c'est tes racines.
Oui, et voilà.
Et comment a réagi ta mère quand tu as pris ces cours du...
Oh, ma mère, elle a toujours soutenu tous mes folies, on peut dire. Même si...
Même d'apprendre le gaélique.
Voilà. Chaque chose, elle a soutenu, même si elle n'était pas d'accord, ce n'était pas important pour elle. Mais elle m'a soutenu.
Et est-ce que pour toi, tu as réussi à dépasser cette association du gaélique à une langue politisée, mais que tu as réussi à en trouver quelque chose de plus... un peu plus sensible, peut-être plus affectif aussi, ou simplement folklorique, je ne sais pas, de donner d'autres valeurs à cette langue en la pratiquant et en la découvrant.
C'est une très bonne question, Claire. Je crois que ça a été un processus. Voilà, c'était petit à petit. Même ce que je n'aimais pas, c'était souvent ma mère disait « Ah oui, mais je n'aime pas comme il parle le gaélique, c'est pas un vrai gaélique. » Voilà, il y avait plein d'associations négatives. Et je pense que c'est par rapport à la musique. Et je pense que cette chanteur, Irla, on a écouté au début, c'était... dans un film de, je ne sais pas, peut-être il y a 5 ans, qui s'appelait Brooklyn. Ça parlait de l'immigration des Irlandais aux États-Unis. Et c'était dans ce film, j'ai vu, il a chanté, pas, il jouait un rôle, mais il chantait quand même en gaélique. Et tout de suite, je capte quand c'est la langue maternelle de quelqu'un. Voilà, c'est très différent de gaélique qui m'entourait dans les rues de Belfast. Voilà, tout de suite, je sentais quelque chose de très très fort, très très fort, et qui, ça m'a touchée à un niveau. En fait, je savais pas du tout que ça peut exister ce lien avec la langue. Et je crois que c'est à partir de là où j'ai commencé à chercher et à m'ouvrir, à juste sentir ce que la langue me fait. Voilà.
Merci.
C'est très beau et les auditeurs n'ont pas pu voir, mais nous, on a pu voir l'émotion sur ton visage quand quand on a écouté le Yarla,
oui,
au début de l'émission.
Oui, c'est voilà, même c'était un peu pour moi une langue. Quand je parle maintenant, c'était un peu une langue interdite. Et il y a quelques ans, peut-être 10 ans maintenant, je suis retournée à Noël pour voir la famille. Et j'ai une grande famille là-bas. Et j'ai parlé avec mon neveu qui, à ce moment-là, avait 13 ans. Et c'est la tradition pour les gens qui suivent le Gaelic au collège. Ils partent 3 semaines dans le Gaeltacht, dans ces régions où ils sont accueillis par les bonnatis, les femmes au foyer qui accueillent des étudiants de Gaelic tous les étés et suivent les cours de Gaelic au collège. Et c'est ce que j'ai compris de mes amis à l'école. C'était vraiment un moment chouette de l'été où ils s'épanouissaient.
S'épanouissaient.
Oui, ouais, voilà, ouais. Pardon. C'est verbe. C'est conjugaison en français. Et je parlais avec mon neveu. Et apparemment, lui, il avait passé un été, 3 semaines, dans un Gaeltacht. Il était très, très, très enthousiasmé. Et il était... Voilà, ça se voyait, il trouvait quelque chose pour lui parce que c'est pas facile dans sa famille. Et là, un an après, j'ai demandé, alors tu vas continuer avec le Gaelic? Après 3e, on peut dire. Il a dit non, mais tu sais, c'est plus utile que je continue avec l'espagnol.
Il pourrait s'en servir plus facilement. Et pourquoi tu penses que c'était plus facile l'espagnol? Parce que l'envie de partir? Comme toi, tu...
Non, c'était juste cette idée
d'arrêter le gaélique.
Oui, et je trouvais... en fait... Pour revenir à ce que Claire disait, cette idée de côté affectif, de côté de nos racines, je pense ça me fait très triste que ça n'a pas été pris en compte, on peut dire. Voilà.
Et je me disais aussi, peut-être aussi cette question-là, elle se pose aussi maintenant, à l'âge que tu as, et que quand on est plus jeune, quand on est adolescent, on va réfléchir à qu'est-ce qui est utile à apprendre comme langue. Effectivement, là, on apprend des langues étrangères, etc. Et que cette question de la racine, de la langue maternelle aussi, c'est une question qui se pose pour certains aussi avec la maturité. Et peut-être, là, je ne sais pas si c'est le moment dans l'émission, mais toi, ton rapport à la langue maternelle, maintenant que tu en as deux, le français... Et l'irlandais, et puis quel irlandais surtout, et la langue maternelle et les langues plus anciennes, c'est des questions qui aujourd'hui nourrissent tes réflexions. Et je pense qu'on pourra y revenir après, quand on aura parlé un petit peu de ton arrivée en France, etc., mais que ce sera intéressant d'avoir ton avis sur cette question.
Oui, donc on va peut-être revenir effectivement sur l'arrivée en France et sur le départ de l'Irlande, en fait. Pourquoi es-tu partie?
Oh,
grande question.
C'est une grande question. Où je peux commencer? Alors, je crois, je suis venue en France pour la première fois à 15 ans. C'était un voyage scolaire. Et voilà, c'était... Je suis allée en Normandie, c'était un petit voyage, mais j'ai commencé à voir des choses que je ne voyais pas en Irlande. J'ai vu l'horizon, peut-être pour la première fois, je crois.
Est-ce qu'on ne voit pas l'horizon?
Non, il y a les collines partout dans ma ville. Alors, voilà, ça m'a impressionnée. Et je me souviens, j'étais avec un grand Normand, il me conduisait... C'était le trajet de retour et je lui dis, Je suis désolée, je sais pas encore le passé composé. Alors je te parle au présent. Il a dit oui, pas de souci, tout va bien. Et je me souviens ces chants très 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 grands.
Très étendus.
Oui, et avec l'horizon. Et je me suis dit waouh. Et la deuxième fois, je suis retournée en France, c'était quand j'avais 17 ans. Et là, c'était au centre de la France, vers Châteauroux, voilà, oui. Mmh. Et, oui, voilà. Et le soleil, c'était avril, et le soleil est sorti. Et j'ai dit, oh, j'ai jamais senti ça.
La chaleur du soleil.
Mmh. Comme ça, en avril.
Donc, en fait, les premières sensations que tu as eues, elles étaient avec la nature, avec l'horizon, avec le soleil. Tu penses que c'est une des raisons qui t'a motivée pour partir, venir? Parce que, d'après ce que j'ai compris, tu es partie quand tu avais une vingtaine d'années. Tu es venue faire des études en France.
Oui. Je me demande avec l'âge si... Quand on part d'un endroit, est-ce que c'est parce qu'on est poussé? Par exemple, en Irlande, c'est un pays d'immigration, les gens partaient. Ou est-ce qu'on est attiré par l'autre endroit? Alors, je pense que quand j'avais peut-être 20 ans, 21 ans, j'ai croyais que c'était parce que j'étais attirée par la France ou par les autres pays, parce que j'ai vécu quand même dans les autres pays. Mais avec l'âge et quand je fais la réflexion sur ma vie, je comprends aussi que je me sentais un peu poussée de partir. Voilà.
Poussée au départ par ta famille, par la situation politique en Irlande, par le désir de connaître autre chose. Enfin, qu'est-ce qui te poussait?
Je crois que pour moi... Je me souviens d'un autre souvenir très fort. Vers 18-19 ans, je faisais des chantiers de bénévoles dans le sud de la France. Et ces chantiers, on était une vingtaine de jeunes, trois semaines. On travaillait juste la matinée, on faisait pas la fête, mais on faisait des soirées ensemble, on mangeait ensemble, il faisait beau, et c'était une ouverture à notre vie pour moi, à cet âge-là. Et si je me souviens bien, je suis rentrée à Belfast, et c'était... Je me souviens, on circulait en voiture avec ma grande sœur et j'ai vu, c'était souvent, pas souvent, mais tous les ans, en juillet, il y a des problèmes avec les orangistes, voilà, il y a des tensions. Et souvent, ça déclenche...
Je vais te couper pour les auditeurs, les orangistes et les unionistes protestants.
Voilà. Et ils font des défilés dans la rue. Et souvent, ça déclenche chez les catholiques des problèmes, des protestes, voilà. Et je crois que j'avais passé un été, on allait à Beau-de-Provence, je suis allée chercher l'endroit au bagne où il est né Marcel...
Marcel Pagnol.
Pagnol, voilà. Oui, on était là. Oui, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? On va aller voir, au bagne. Oui, voilà. J'avais passé un été un peu comme ça. Je retourne à Belfast.
Au milieu du conflit.
On est là et je vois les voitures qui sont en train de brûler dans la rue. Et j'étais là. OK. À ce moment-là, je me suis dit, quand même, il y a notre vie. Voilà. Alors, je pense que c'était ça, mais aussi, je sentais au niveau de la famille, on peut dire, que je ne pouvais pas vraiment aller au bout.
T'épanouir.
Voilà.
Si tu restais en Irlande, tu n'aurais pas pu aller au bout de ce que tu voulais faire.
Et qui je voulais être.
Et qui tu voulais être.
Voilà.
Et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui, en fait, par rapport au fait d'être partie ? Est-ce que tu as l'impression que tu as réellement pu devenir qui tu étais en émigrant ? Ou est-ce que... Enfin, quel bilan tu en fais aujourd'hui de cet exil, quelque part ?
Il y a peut-être il y a 2 ans, j'ai commencé à vraiment réfléchir sur mon parcours. Et je me demandais, mais pourquoi t'es partie, pourquoi t'es pas restée j'avais beaucoup de questions qui circulaient. Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait des choses que j'avais pensé j'allais rattraper, les amis, les endroits, voilà. Ça a devenu un peu une obsession pour moi.
Alors, des amis en Irlande?
Oui, c'était toute mon histoire parce qu'on a, mes parents ont déménagé quand je faisais mes études à Grenoble. Alors, je suis rentrée...
Pour te retrouver dans un nouvel appartement,
voilà,
un nouveau quartier aussi?
Oui, complètement différente, complètement. Et ça m'a complètement bouleversée. Mais c'était juste 20 ans après, je me suis rendu compte de l'effet que ça m'a fait. Et il y a 2 ans, tout est sorti un peu, on peut dire. Et je suis allée au parc de Bosquet ici à Cray. Et je croisais une femme, en fait. Cette femme, peut-être c'était la première fois qu'on s'est croisés. Et on ne s'est pas vus depuis. Mais elle m'a parlé, « Ah, mais tu viens d'où ?» Les questions, c'est souvent les mêmes. Et à ce moment-là, j'étais honnête, j'étais très franche avec elle. J'ai dit, en fait, ça, c'est difficile pour moi. Je ne peux pas vraiment te parler
de pourquoi, parce que
je passe un moment très difficile. Et à ce moment-là, elle m'a cité Baudelaire. Elle m'a dit, oui, je me souviens. Elle m'avait raconté un peu son histoire. Et elle m'a dit, c'était Baudelaire qui disait, faut-il partir, rester? Si tu peux rester, reste. Pars s'il le faut. Et pour moi, c'était la clé, en fait. C'était la clé.
Et c'est ce que tu penses aujourd'hui?
Oui, j'ai réfléchi, j'ai écrit en grand chez moi. Je lis tous les jours et en fait, je me suis dit, Fiona, il fallait partir. Il fallait partir. Voilà. Et à partir de là, même si des fois c'est dur, je me sens en paix avec la décision.
D'être partie parce qu'il le fallait.
Il fallait. Et je me sens que... Si j'étais restée à Belfast, c'était ma zone de confort, on peut dire. Mais je crois que les contraintes
étaient trop fortes.
Étaient trop fortes.
Quand on préparait cette émission, je pense que ça pourrait être un peu le mot de la fin. Je te cite là. Tu nous as dit une phrase que j'ai trouvée très belle. Au début, on ne voit que le positif et au fil du temps, on voit ce qu'on a perdu. Est-ce que tu es toujours en accord avec cette phrase?
Non.
Très bien.
Même depuis la semaine dernière, j'ai évolué. Je crois que...
Alors, pour conclure, je te propose de nous dire où tu en es aujourd'hui.
Oui.
Et peut-être de... dans la foulée, lire le petit texte que tu nous as proposé de lire tout à l'heure.
Ok.
Mais ça m'intéresse de savoir où tu en es depuis la semaine dernière, du coup.
Oui, parce que... je pense que ça m'a fait énormément de bien de réfléchir sur mon parcours. Et avant cette émission, bien sûr, de vraiment chercher et essayer de comprendre pourquoi je suis à Cray, pourquoi je suis dans la Drôme. À force de parler sur le sujet, je me rends compte que j'ai perdu beaucoup de choses. Et c'est dur des fois pour moi avec la langue parce que j'arrive à m'exprimer beaucoup plus facilement en anglais. Et à force de parler une autre langue, parler le français, je suis obligée d'être une autre personne parce que je dois simplifier des fois des choses. Je vois les gens à Belfast, j'ouvre ma bouche, je suis la bienvenue parce que je suis de là, j'ai ma place.
Tu as l'impression que tu n'as pas ta place ici?
C'est pas ça, c'est juste, il faut toujours, ne pas justifier, mais il y a toujours un petit regard parce que je suis une étrangère. Voilà, j'ouvre la bouche, j'ai l'accent anglophone. Et c'est souvent, ah oui, mais vous êtes anglaise. Non, je ne suis pas anglaise, je suis irlandaise. Voilà, ça commence toujours un peu pareil. Pourquoi vous êtes venue en France? Le soleil, je ne sais pas.
Tu es toujours amenée à devoir expliquer.
Oui,
en fait,
et des fois, c'est un peu dur. Il y a des possibilités d'échange que je ne peux pas avoir en Irlande. Voilà, on peut dire comme ça. Et... voilà, je trouve que même si des fois c'est il y a des choses qui sont difficiles pour moi, par exemple, souvent dans le quotidien, il y a la dimension spirituelle n'est pas très évident, on peut dire
ici.
Oui, et ça c'est quelque chose que est très difficile pour moi, je crois. Voilà.
Et je crois que le texte que tu vas nous lire va dans ce sens-là.
Oui.
Voilà. Et c'est un texte que tu me disais tout à l'heure qui te faisait du bien et que
oui.
Tu lisais souvent.
Oui, parce que en fait, je suis venue à la conclusion que la terre est ma demeure, que on n'a pas, il faut enlever peut-être tout cette notion de nationalité, de religion. Et moi, je mettais des fois des résistances et je comprends maintenant que vraiment, vraiment, pour être heureux, il faut juste se satisfaire, oui, avec le présent et où on est.
Où on est au moment où on est.
Voilà, et accepte en fait mon parcours. Ça s'est fait, des fois je ne comprends pas trop pourquoi ça s'est fait comme ça, mais je dois faire confiance.
Et l'accepter.
Accepter, voilà.
Je propose de terminer sur cette phrase. Si tu veux nous lire le texte.
Alors, vous êtes un enfant de l'univers, pas moi que les arbres et les étoiles. Vous avez le droit d'être ici. Et qu'il vous soit clair ou non, l'univers se déroule sans doute comme il le devrait. Soyez en paix avec Dieu, quelle que soit votre conception de lui, et quelles que soient vos peines et vos rêves, gardez dans le désarroi bruyant de la vie la paix dans votre âme. Tâchez d'être heureux.
Merci pour ce texte, Fiona. Merci pour ta présence, pour ton témoignage. Et on te dit au revoir.
Merci à vous. Au revoir.